Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Madame Nina Simone sur les ondes de Canal M et toujours Clotilde Seille en votre compagnie pour vous faire la lecture des journaux. C'est la deuxième heure de l'émission Au quotidien. Aujourd'hui, en ce 1er octobre 2014, on passe à quelques-unes de vos opinions, par exemple celle-ci. Qui est de Monsieur Louis Baudry, pardon, il est de Montréal. Monsieur Baudry, ex-secrétaire général du bureau de coordination des centres hospitaliers d'enseignement affiliés à l'université. Et il écrit « Félicitations au gouvernement de M. Philippe Couillard et au courage du ministre Gaëtan Barrette de décider d'implanter le financement par patient. Cela réalise un de mes rêves. De 84 à 93, 7 hôpitaux répartis à travers le Québec avaient participé à un projet en ce sens. J'ai eu le plaisir de mettre en œuvre ce projet et de le réaliser avec les représentants à temps partiel de ces centres hospitaliers. » Ce projet visait, et a réussi, à démontrer qu'il était possible d'obtenir le profil et le coût des épisodes de soins de chaque patient. Étant donné l'absence à l'époque d'un système informatisé des dossiers de patients, nous avions dû mettre en place un système informatisé léger, orienté vers la collecte des données. Étant donné que le seul système connu à ce moment-là était américain et se nommait « Diagnosis Related Group », nous avons appelé le projet « Système d'information reliant les activités cliniques aux données opérationnelles et financières ». Les résultats montraient clairement que certains établissements étaient plus performants que d'autres. Certains établissements étaient très heureux et d'autres moins. Étant donné que cette initiative était volontaire, bien que financée en partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais qu'elle n'était pas appuyée par une volonté politique, le projet fut abandonné. Aujourd'hui, nous disposons de dossiers informatisés et d'une volonté politique. Il reste à s'assurer que ce financement soit soutenu par un programme de partage des initiatives mises en place pour réduire les coûts par patient et de modes de gestion de l'activité clinique stimulant. Bon succès pour réaliser ce qui se fait maintenant dans plus de 20 pays de l'OCDE, écrit M. Louis Baudry. Pierre Langlois a envoyé cette lettre-là qui, comme pour la lettre de M. Baudry, s'est retrouvée dans le Devoir de ce matin. Ces dernières années, écrit Pierre Langlois, et comme maintenant le gouvernement fédéral dans le dossier du pont Champlain, on nous a vanté les vertus du concept de l'utilisateur-payeur. Selon cette idée, les utilisateurs d'un service devraient assumer une partie ou la totalité du coût. Avec la démission d'Hélène Zakaïb du Parti québécois et de Christian Dubé de la CAQ, il faudrait songer à développer un nouveau concept, celui du gaspilleur-payeur. Les deux démissions ont quelques points en commun. Elles surviennent après un très court laps de temps à la suite de l'élection générale et dans les deux cas, les démissionnaires ne partent que pour améliorer leur sort. Finalement, pour des raisons simplement liées à leur avancement personnel, ces démissionnaires acceptent d'entraîner des dépenses substantielles dans leur circonscription pour une élection partielle. Nous payons donc tous pour leur instabilité. Il faudrait donc s'attarder sur cette problématique et peut-être ajouter aux conditions d'engagement d'un député une clause mentionnant l'obligation pour un député d'effectuer son mandat ou encore de défrayer, lui ou son parti, les coûts reliés à son remplacement s'il part sans raison de force majeure. Si l'utilisateur doit maintenant payer, imaginez le gaspilleur. Une autre opinion qui nous vient cette fois-ci de M. Sylvain Charlebois de La Presse au sujet des supermarchés qui, selon lui, sont en péril. Le monde du commerce de détail alimentaire au Canada vit une véritable métamorphose ces dernières années. Certains indicateurs nous suggèrent que le temps est révolu pour les supermarchés consacrés entièrement à l'alimentation. Par exemple, certains détaillants en alimentation offrent dorénavant le service à l'auto et vendent de plus en plus de produits alimentaires en ligne. Walmart a déjà fait son empreinte sur le marché canadien et l'arrivée éventuelle d'Amazon risque aussi de perturber l'industrie. De plus, les canaux de distribution s'éclatent, par exemple. Les citadins auront accès sous peu à du sushi et à de la salade niçoise fraîche dans les pharmacies. Avec l'invasion des méga-détaillants et l'éveil sournois de certains autres acteurs comme les magasins à bas prix et les dépanneurs, plusieurs experts se demandent s'il existe toujours une place de choix pour le magasin alimentaire traditionnel de grande surface. C'est au cours des années 60 que le modèle traditionnel des épiceries avec ses rayons de base s'est manifesté. Les viandes, fruits et légumes, conserves, produits laitiers, ainsi qu'une panoplie d'autres articles alimentaires étaient à la portée d'une seule grosse commande, une fois toutes les deux semaines. Maintenant, le consommateur engagé visite un point de service alimentaire 2,2 fois par semaine et dépense en moyenne moins à chaque visite. Les modes de vie ont bien changé et l'industrie a dû s'adapter. Depuis une dizaine d'années au Canada, les ventes des détaillants hors secteur ont arraché près de 17% des ventes alimentaires au Canada aux dépens des entreprises dédiées à l'alimentation comme Loblaw, Metro et Sobeys. Cette part est séparée entre les magasins entrepôts, Costco, les magasins rabais, Walmart et Target, ainsi que les pharmacies et les magasins à prix unique. En effet, les ventes alimentaires dans les dépanneurs, magasins à 1$ et pharmacies ont bondi de 14% depuis 2 ans. L'impact de ces derniers est plus subtil, quoique de plus en plus de consommateurs se contentent d'acheter des collations consommables tout au long de la journée. Il écrit, ce monsieur Charlevoix, que somme toute, les jours sont comptés pour les magasins alimentaires traditionnels et l'industrie le sait très bien. Le magasin général d'antan a subi le même sort. Le modèle des années 60 est obsolète et laisse tranquillement sa place à autre chose. Par contre, cette fois-ci, pour contenter une demande de plus en plus fragmentée, plusieurs modèles à succès émergeront. Et puis, M. Paulin-Aubé revient sur les pantalons des policiers. Il dit, au cours des dernières semaines, différents médias ont prêté la parole à des policiers étrangers qui s'insurgeaient que leurs confrères québécois altèrent l'uniforme policier traditionnel. Entendons-nous d'accord d'abord sur un constat, dit-il. Un moyen de pression doit déranger. Autrement, on peut facilement convenir qu'il est inefficace. Mais encore faut-il qu'il dérange les bonnes personnes. Et c'est là que ça se corse. Et qu'il est important de comprendre la situation dans laquelle les employés en sécurité publique se retrouvent. À la Fédération des policières et des policiers municipaux du Québec, nous avons fait le choix de ne pas compromettre le service à la population pour faire valoir nos positions. En d'autres mots, ce n'est pas à monsieur et madame tout le monde de payer le prix pour les mauvaises décisions libérales. Dès lors, l'océan de possibilités pour se faire entendre est restreint et un tout petit étang. Il est en effet difficile de trouver des moyens qui dérangent suffisamment les parlementaires et les municipalités pour les convaincre de revenir sur leur position, tout en ne compromettant d'aucune façon les besoins courants de la population. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser des manifestations pour nos policiers en congé, mais aussi d'altérer nos uniformes avec des pantalons loufoques et une casquette emblématique. Nous estimons normal que nos estimés collègues étrangers ne saisissent pas tout l'impact que le projet de loi 3 aura sur nous. En effet, en étant à l'étranger, ils ne reçoivent que certaines bribes d'informations. Il serait alors à propos de leur souligner que les policiers municipaux québécois sont les moins payés au Canada. Cette situation découle de notre choix d'investir davantage dans nos régimes de retraite. Il est donc normal qu'un projet de loi qui s'attaque directement à l'épargne des policiers québécois dérange plus ici qu'ailleurs, puisque cela correspond à une part plus importante de notre rémunération globale. En chiffres concrets, chaque policier municipal perdrait de 500 à 10 000 $ et ce, par année. Et là, il conclut, ce monsieur policier, il y a bien de quoi porter des drôles de pantalons, non ?
Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es tuya, es mía y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es tuya, es mía y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es tuya, es mía, es de aquel, de Pedro María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es tuya, es mía, es de aquel, de Pedro María, de Juan y José.
Et nous voilà partis à l'étranger, notamment en Espagne. Dans le journal de Montréal, on nous dit que des milliers de manifestants se sont rassemblés mardi soir à Barcelone, comme dans d'autres villes de Catalogne, au cri de « Indépendance » et « Nous voterons » pour réclamer le droit pour la région d'organiser un référendum malgré sa suspension par la justice. Les indépendantistes avaient convoqué ces rassemblements devant les mairies de toutes les localités de Catalogne au lendemain de la suspension par le tribunal constitutionnel espagnol de la consultation convoquée le 9 novembre par le président nationaliste catalan Artur Mas. Sur le sujet, M. Joseph Facal s'exprime ce matin dans le journal et écrit. Après l'Écosse, c'est maintenant en Catalogne que les choses s'accélèrent. Avant-hier, le tribunal constitutionnel de l'Espagne a suspendu la loi et le décret adopté par le Parlement catalan qui prévoyait la tenue d'un référendum à deux questions sur la souveraineté de la Catalogne. C'était parfaitement prévisible, écrit M. Fagal. Ce tribunal est chargé de faire respecter une constitution qui ne reconnaît l'existence que d'un seul peuple, le peuple espagnol, et qui pose l'indivisibilité du territoire de l'Espagne. Le gouvernement catalan examine ses options. Madrid a clairement choisi la ligne dure. En Catalogne, l'appui au oui est solidairement majoritaire. Et plus Madrid se braque, plus il se raffermit. Catalogne, Écosse, Québec, chaque cas est particulier, mais tous combinent les dimensions économiques, politiques et culturelles. Les souverainistes catalans soutiennent que Madrid ne dépense en Catalogne que 9,5% de ce qui est versé dans toutes les régions, mais que la Catalogne compte pour 19% du PIB espagnol. Madrid conteste ces chiffres. Les Catalans ont leur propre langue, mais cette question n'a pas l'émotivité qu'elle a ici parce que l'Europe fourmille de petites langues et qu'aucune langue majeure n'est en position d'écraser les autres, même involontairement, comme l'anglais, en Amérique du Nord. Le débat a aussi sa dimension identitaire. Quand le Parlement catalan a interdit les corridas de taureaux sur son territoire, ce n'était pas pour protéger ces gentilles petites bêtes de la cruauté humaine, mais pour s'en prendre à un symbole profond de l'identité espagnole. À chaque fois que je traite de ces questions, il se trouve des gens pour me dire qu'ils ne comprennent pas que des petits peuples puissent songer à l'indépendance à l'ère de la mondialisation. L'explication est pourtant simple et tient en deux points, écrit Joseph Facal. D'abord, comme la mondialisation uniformise certains aspects de nos vies, on valorise d'autant plus ce qui nous distingue. Ensuite, comme la mondialisation transforme toute la planète en un marché unique, il faut édicter des nouvelles règles du jeu continental, voire mondial. Cela se fait dans les instances de l'Union européenne, à l'OMC, à l'ONU, etc. Les peuples, surtout les plus petits, ont alors le sentiment que les décisions se prennent toujours plus haut au-dessus de leur tête. C'est comme si le pouvoir citoyen s'évaporait vers le haut. Honnêtement, dites-moi, conclut M. Facal, avez-vous le sentiment que Stephen Harper prend en compte le point de vue du Québec quand il s'exprime sur la scène internationale? Avant de partir pour Hong Kong, laissez-moi vous décrire cette caricature qui nous présente un char d'assaut face à un homme tout seul devant lui. Évidemment, ça nous rappelle bien des souvenirs, cette place Tiananmen. Mais là, la seule différence, c'est que Badaud, dans le droit, nous présente cet homme avec un parapluie à la main. L'épreuve de force, écrit Agnès Gruda ce matin dans la presse. Elle nous dit « Ce n'est pas la première fois que les Hongkongais descendent dans les rues pour protester contre l'autoritarisme de Pékin ». Dès 2003, à peine 6 ans après avoir rapatrié l'ancienne colonie britannique, le gouvernement chinois avait tenté d'y resserrer la sécurité pour lutter contre la subversion. Cette manœuvre d'empiétement sur l'autonomie de l'île avait soulevé une grogne telle que Pékin avait fini par reculer. En 2012, la capitale est revenue à la charge, cette fois avec un projet visant à injecter davantage de patriotisme dans les programmes éducatifs de Hong Kong. Là encore, les dirigeants chinois se sont heurtés à un mur et la réforme n'a pas eu lieu. Depuis que la Chine a repris possession de cette île après 150 ans de règne britannique, Hong Kong et Pékin n'ont cessé de se livrer une incessante partie de bras de fer, constate Jeff Wasserstrom, spécialiste de la Chine à l'Université de Californie. Sauf que cette fois, les enjeux sont beaucoup plus importants, note cet expert qui a signé un essai sur la Chine au XXIe siècle. L'ampleur du mouvement de protestation qui a déferlé sur Hong Kong au cours du week-end et la ligne dure adoptée par Pékin donnent effectivement à cette nouvelle confrontation des allures d'épreuve de force. Au cœur du litige, la nature même du régime hongkongais et la promesse de statut particulier et de démocratie faite aux habitants du territoire au moment où ils ont quitté le giron britannique. 17 années ont passé au cours desquelles Pékin a tenté plus ou moins subtilement et avec plus ou moins de succès de gruger l'espace de liberté dont jouit ce territoire, repoussant le moment de vérité, celui où l'on définirait la nature du régime politique aux commandes de Hong Kong. Finalement, la date du premier scrutin permettant aux Hongkongais d'élire leurs dirigeants a été fixée à 2017. Quel genre de scrutin ? Va pour une élection libre, mais entre des candidats soigneusement sélectionnés par les dirigeants chinois, a tranché Pékin. Vu de Hong Kong, cette proposition n'est rien d'autre qu'une insulte à l'intelligence, écrit Anson Chan, secrétaire général du gouvernement de Hong Kong à la fin du règne britannique. Notre loi fondamentale affirme que nous aurons le droit d'élire nos dirigeants et on nous dit que nous ne sommes toujours pas prêts à la démocratie, dénonce-t-elle. En réalité, c'est plutôt Pékin qui n'est pas prêt à la démocratie et c'est bien là que le bât blesse, reprend Agnès Grouda. Car Hong Kong a beau jouir d'un statut particulier, les dirigeants craignent par-dessus tout l'effet de contagion. Si les électeurs de Hong Kong devaient pouvoir voter pour des candidats librement choisis, comment justifier que leurs compatriotes de la Chine continentale ne puissent en faire autant ? La crise qui secoue Hong Kong n'est donc pas un soubresaut périphérique, c'est une crise de fond. Dans la forme, le mouvement de protestation fait écho à d'autres soulèvements populaires récents. Il a un symbole, celui des parapluies, dont les manifestants se servent pour se protéger contre les gaz lacrymogènes. Et il a un slogan, slash Occupy Central. Il a même une chanson thème, à la volonté du peuple, tirée des Misérables. Comme on l'a vu ailleurs aussi, le mouvement de protestation pacifique s'est étendu plutôt que de plier devant la répression. Au début, beaucoup de gens étaient ambivalents, mais la répression de jeunes étudiants en a incité plusieurs à les rejoindre, constate Jeff Wasserstrom. Ils ont eu peur que leur avenir ne soit bien sombre s'ils n'agissent pas. Une vague de protestation qui s'amplifie et qui devient de plus en plus intransigeante dans ses demandes. Un régime qui se braque. L'affrontement violent est-il encore évitable ? Oui, croient les experts. D'abord, parce que le régime a encore quelques atouts dans son jeu pour faire baisser la pression. Il pourrait par exemple remplacer le chef de l'exécutif de Hong Kong, Leung Chun-ying, qui cristallise la colère des manifestants. Il pourrait aussi offrir des élections libres générales au Conseil législatif municipal. Actuellement, seule une partie des conseillers est élue au suffrage universel. Il pourrait enfin élargir le comité de sélection des candidats au poste de dirigeant de l'île, augmentant ainsi le pouvoir d'influence de Hong Kong. Une partie de l'élite économique de Hong Kong se contenterait sans doute de ce genre de demi-mesure, tandis qu'une répression trop violente risque de la faire basculer dans le camp des démocrates. Ce qui est clair, conclut Agnès Grouda, c'est que la protestation a déjà dépassé tout ce que le régime, mais aussi sans doute les manifestants eux-mêmes, pouvaient imaginer, et que tous les scénarios restent possibles, y compris celui du grand dérapage. Jean-Simon Gagné écrit ce matin dans Le Soleil « Que feriez-vous avec 2000 milliards ?»« Rêvons un peu », écrit-il. « Imaginons ce que les États-Unis auraient pu faire avec les 2000 milliards engloutis dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan depuis 2001. Lancer un vaste programme de réfection des infrastructures à travers les États-Unis ?» 500 milliards. « Nourrir les 800 millions de personnes affamées de la planète durant 10 ans ?» 300 milliards, financer un programme de vaccination annuel de tous les enfants du monde contre la rougeole, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, la polio et la diphtérie, 8 milliards, élargir l'assurance maladie pour inclure les 40 millions d'Américains qui n'en ont toujours pas, 500 millions, doubler les sommes consenties par la Banque mondiale pour fournir de l'électricité à tous les habitants de la planète d'ici 2030, 150 milliards, multiplié par 5 le financement public de la recherche sur le cancer durant 10 ans, 300 milliards, expédier des astronautes sur la planète Mars, 100 milliards. Fournir de l'eau potable aux 2,4 milliards d'êtres humains qui n'y ont pas accès, 40 milliards. Vaincre l'analphabétisme à travers le monde, 20 milliards. Et même après cela, on pourrait encore distribuer un cornet de crème glacée au chocolat à chaque habitant de la planète. Stop, n'en profitez pas pour faire de l'humour facile. À quoi bon faire des calculs naïfs sur ce que les Américains auraient pu faire, demanderont les cyniques. Si la principale exportation de l'Irak était l'asperge et non le pétrole, les États-Unis n'y auraient même pas mené des opérations militaires durant 14 des 24 dernières années. Comment oublier la plaisanterie à la mode lors de la chute de Bagdad au printemps 2003 ? L'Irak va être séparé en trois parties, ordinaire, super sans plomb et diesel. Très drôle. Il n'empêche, dit Jean-Simon Gagné, qu'en regardant une carte du Moyen-Orient ces jours-ci, même les cyniques broient du noir. Jusqu'au bout, eux aussi refusaient de croire que la lumière au bout du tunnel était celle d'un train qui arrivait en sens inverse. En Afghanistan, il n'est pas exclu que les talibans reprennent le pouvoir. En Irak et en Syrie, la montée fulgurante de l'État islamique promet un carnage de grande ampleur. 2 000 milliards de dollars et des centaines de milliers de morts pour en arriver là, quand on sait que les militaires promettaient précisément de rendre le monde plus sûr. Avouez que cela ressemble à une mauvaise plaisanterie. Mais l'humour, c'est parfois tout ce qui reste pour affronter la cruelle réalité à Bagdad, à Tripoli, à Gaza, à Damas ou au Caire. Chez nous, le service de police est excellent, disent les passants au Caire, et il vaut mieux le répéter très fort pour n'être arrêté et battu à mort par ces excellentes personnes. Qu'auraient pu faire les États-Unis avec 200 milliards de dollars au lieu de faire la guerre depuis 2001. Il paraît que la question ne se pose plus, car une nouvelle guerre s'annonce, un nouveau choc entre la civilisation et la barbarie absolue. À charge pour chacun de s'y retrouver dans le jeu des alliances qui se font et qui se défont. Dans ces conditions, même l'infâme président syrien Bachar al-Assad garde espoir. Qui sait si les États-Unis et leurs alliés n'auront pas besoin de lui pour combattre l'organisation de l'État islamique ? Peut-être qu'il lui suffira de ranger les crocs de boucher et de changer la moquette maculée de sang. Allez savoir. Chez nous, toutes les conférences d'astrologues et de médiums sont annulées à cause de circonstances imprévues. Ils ne croyaient pas si bien dire. Peu importe. À la fin, notre légendaire capacité d'oubli triomphe toujours.